Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Desmichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin. L'homme partit. Le lendemain, le prince soigna de son mieux le cheval gris et se mit à frapper la jument blanche. « Pas si fort, pas si fort !» lui disait-elle. « Est-ce que les chevaux parlent ici ?» demanda le jeune homme. « Oui, » répondit la jument. « Je parle et c'est pour ton bien. Écoute mes paroles ou dans 3 jours tu seras comme moi. J'ai été prise comme toi et changée en jument. Comment faire pour me sauver ?» « Donne-moi de l'avoine afin que je prenne de la force, et dans 3 jours je t'emporterai sur mon dos. » Il la soigna de son mieux, et au bout de 3 jours, elle reprit de la force et fut capable de marcher vite. « Mais, lui dit-elle, une selle sur mon dos, prends avec toi la brosse, ton étrille et ton bouchon, et prépare-toi à monter sur moi, car bientôt la cloche va sonner et le diable va être prévenu de notre départ. » Quand il fut en selle, la jument lui disait « Éperonne, éperonne dur !» Elle marchait comme le vent et lui répétait « Éperonne, éperonne dur, ne vois-tu rien venir ?»«
Non, rien, » répondit-il.
« Éperonne, éperonne dur, ne vois-tu rien derrière nous ?»«
Si, j'aperçois un gros nuage avec du feu au milieu qui s'avance sur nous. »«
Est-il loin ?»«
Non, il nous atteint. » »«
Jette ta brosse derrière toi. » Aussitôt s'éleva une forêt si épaisse que le diable ne put la traverser et fut obligé de faire le tour. Pendant ce temps, la jument marchait comme le vent et répétait « Éperonne, éperonne dur, ne vois-tu rien venir ?»«
Non. »
« Éperonne, éperonne dur, ne vois-tu rien venir ?»«
Non, rien. »
« Éperonne, éperonne dur, et regarde bien. »
« Ah, je vois un nuage noir qui nous rattrape.
Jette vite ton étrille. » Aussitôt s'éleva une montagne si haute qu'on n'en voyait pas le sommet. Le diable fut encore obligé d'en faire le tour, et pendant ce temps la jument blanche allait comme le vent en répétant
« Éperonne, éperonne dur, ne vois-tu rien ?»«
Non. »
« Éperonne, éperonne dur, ne vois-tu rien venir ?»«
Rien encore. »
« Éperonne, éperonne dur, et regarde derrière toi. »
« Ah, je le vois, qui vient, qui nous rattrape ?»«
Jette ton bouchon. »
Il s'éleva derrière eux une montagne, plus haute encore et plus escarpée que la première. Le diable fut obligé d'en faire le tour, et pendant ce temps, la jument blanche allait comme le vent. « Veille bien, dit-elle à son cavalier, nous allons arriver à un pont, et quand nous aurons passé le milieu, le diable n'aura plus de pouvoir sur nous. » Ils s'engagèrent sur le pont, et le diable saisit la jument par la queue au moment où ses 4 pieds avaient passé le milieu du pont. Mais le prince coupa avec son couteau les crins qui restèrent dans la main du diable. Il criait au jeune homme « Rends-moi mon cheval ! Rends-moi mon cheval !»«
Non, jamais !» répondit-il.
Longtemps, le diable resta sur le pont à crier, mais il finit par se lasser et s'en alla. La Belle aux clés d'or, sous ce magnifique titre qui n'est pas sans faire penser à peut-être la clé des songes, se cache un conte plein de symboles et de rebondissements. Mais avant de débuter, je me permets de renvoyer nos auditeurs à notre site internet où ils pourront retrouver en écoute la totalité de ce conte. Alors, docteur Dominique Desmichel, bonjour.
Bonjour.
Les règles du jeu sont les suivantes. Tentez de décrypter un conte comme s'il s'agissait d'un rêve raconté par un analysant sur le divan d'un psy, eh bien, c'est vous, en l'occurrence, qui, évidemment, jouerez ce rôle. Alors, nous avons laissé notre héros
en bien mauvaise posture, simplement entre les mains du diable, d'un homme aux grandes dents. Et nous avançons pas à pas avec vous, chers visiteurs, à travers ce conte, sans en savoir beaucoup plus pour l'instant. Alors simplement, le prince se met à supplier le diable de le laisser vivre. Et ça, docteur Dominique Michel, c'est quelque chose que l'on retrouve dans les contes ? Dans les contes, dans les rêves.
Oui, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les rêves, ou qu'on retrouve en tout cas dans le psychisme, ou dans l'âme, j'allais dire, hein, dans l'âme humaine.
Ce marchandage, c'est ça ?
Voilà, je vais prendre un exemple simple, parce que ça permet de peut-être mieux comprendre. À l'intérieur de soi-même, on peut avoir, par exemple, une polarité très agressive. Hein. Mon propos n'est pas de juger moralement l'agressivité, mais de dire que de temps en temps, elle nous pose des problèmes. Et que, dans un rêve, il peut y avoir un scénario où l'on va trouver l'incarnation de ce personnage agressif à l'intérieur de nous-mêmes, qui bien évidemment ne nous résume pas, mais qui est une partie de nous-mêmes, sous la forme, mettons, d'un collègue de travail considéré comme essentiellement agressif. Et il y a souvent une sorte de marchandage entre notre moi, qui a envie d'être plutôt bien dans la vie, et puis cette part de nous-mêmes très agressive. Hein. Ça peut être régulé, par exemple, par notre morale, par le surmoi, par toutes ces instances à l'intérieur de nous-mêmes qui nous disent « bon, bah écoute, tiens-toi bien hein. ». Donc ici, on peut bien comprendre que, vraisemblablement, ce bonhomme avec le dent longue, hein, cette espèce de sorcier-là...
Qui va s'avérer être le diable.
Qui s'avère être le diable.
Donc le pire, quoi. Enfin, voilà, on est au summum de l'obscur.
Tout à fait. Il a assujetti le moi à être son domestique. Et alors, à partir... Donc, c'est un personnage de l'ombre. C'est un personnage de l'ombre. Ça représente une partie, au fond, ici, du prince. Et après, le scénario du rêve, et ici du conte, vont tenter de nous donner une explication. C'est-à-dire de nous dire, mais pourquoi il y a ce conflit entre, eux, ici, le diable inconscient et le prince ?
Eh bien, je vais, pour être le plus clair possible, vous lire le petit passage qui suit.
Oui.
Donc, le diable le mena dans son écurie où il y avait deux chevaux, l'un qui était gris, avec une auge pleine d'avoine, l'autre qui était une jument blanche, n'avait devant elle que des fagots. « Tu auras soin, lui dit-il, de bien nourrir le cheval gris et de lui donner à boire l'eau de la claire fontaine. Pour la jument, tu la laisseras sans manger et tous les jours, tu la frapperas à grands coups de trique. Je pars pour 6 mois, mais obéis-moi bien ou gare à toi, car j'ai une cloche qui m'avertit de tout ce qui se passe ici. » Alors, docteur Dominique Desmichel, nous avons un cheval gris avec à manger et une jument blanche qui n'a devant elle que des fagots, donc peu nourrissants.
Oui, et puis, alors...
Masculin-féminin,
voilà,
évidemment. Hein.
Moi, je trouve masculin-féminin, c'est-à-dire, ici, on a une figure du couple inconscient. Hein. C'est-à-dire, à l'intérieur de chacun de nous, on a une figure masculine, une figure féminine. Ces figures-là se sont construites au fil de notre enfance, de notre adolescence. Elles continuent à se construire et à se modifier tout au fil de notre vie. Elles sont construites essentiellement à partir des images de nos parents, mais en même temps, elles ne sont pas superposables. Il y a par contre à l'intérieur de nous-mêmes des imagos parentales, c'est-à-dire on a une image de notre papa dans le sens historique, on a une image de notre maman dans le sens historique, de la réalité du papa et de la maman, mais on a aussi d'autres figures, ou des figures tout à fait archétypiques, c'est-à-dire c'est comme une sorte de grand logiciel de ce que serait un homme ou un père, ou un grand logiciel de ce que serait potentiellement une mère ou une femme, hein. Je rappelle que père et homme et mère et femme, c'est pas la même chose. C'est voilà, il y a une polarité maternelle chez le papa, il y a une polarité paternelle chez la maman, etc. Donc ici, en tout cas, dans ce conte, on voit bien qu'on est, il me semble, devant une figure de couple et que la problématique de ce jeune homme, si je le recevais en analyse, selon ce que dit son rêve, ça serait que lui, il a une sorte d'injonction diabolique à l'intérieur de lui-même, qui fait qu'il serait en quelque sorte contraint de s'occuper d'une figure masculine assez grisâtre, mais bien nourrie, mais qui n'a pas l'air d'être en bonne santé, et d'une figure féminine plutôt resplendissante, mais qu'on est en train d'affamer et qu'en plus, on doit battre. Hein. En plus, on lui donne, on donne de la belle eau fraîche, de la belle fontaine au masculin gris, et on ne donne ni à boire, ni à manger à la belle jument.
Docteur Dominique Desmichel, nous avons donc là, sommes là face à une figure, en tout cas, ce héros vit mal quelque chose en lui, c'est évident, vit mal sa féminité, a une part féminine qui est un peu sous le boisseau, peut-être refoulée.
Oui. En tout cas, pour lequel il n'a pour l'instant de choix que d'être dans une situation de rien lui donner, de ne pas la nourrir, quoi. Hein. Voilà, elle ne va pas pouvoir grandir. Hein.
Alors, le diable, l'homme parti, je cite le texte, « Le lendemain, le prince soigna de son mieux le cheval gris et se mit à frapper la jument blanche. Pas si fort, lui disait-elle. Est-ce que les chevaux parlent ici ?» demanda le jeune homme. Alors, on rentre bien sûr dans le merveilleux du conte, avec des animaux qui parlent. Et puis, qu'est-ce que ça peut signifier, cette figure féminine dont on parle à l'instant, qui se réveille, qui se met à... Oui. Qui se révolte, qui c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça, sinon, si je meurs, c'est peut-être toi qui vas mourir aussi.
Dans les rêves, les animaux, ça représente le plus souvent des instincts. Hein. C'est-à-dire, on voit apparaître tel ou tel animal, et ça représente cette capacité à l'intérieur de soi-même, pour le rêveur, de rejoindre quelque chose de son instinct. Je vais vous donner un exemple. Je reçois quelqu'un actuellement, pratiquement le premier rêve de cette personne mettait en scène un chien qui était pratiquement squelettique. Hein. C'est-à-dire, il n'y avait que les os sur la peau et c'était absolument tragique, il était au bord de mourir. Hein. Et puis, je dis ça d'autant plus que cette personne a rêvé cette semaine, a eu un autre rêve dans lequel il y a un chien. Et ce chien, eh bien, il n'est pas en très très bonne santé, il a un peu des soucis, enfin, il y a toute une histoire dans le rêve, mais ce qui est très très manifeste, c'est que le chien, il est quand même vivant, il tient sur ses pattes, il peut se déplacer. Donc ici, au fond, ça dit, pour des raisons que je ne sais pas trop pour l'instant, il faudrait interroger le rêveur en lui disant « qu'est-ce que ça représente pour vous un cheval ?» hein, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, hein, parce que c'est quand même une figure importante. Mais on voit bien qu'il y a un contenu. Par exemple, on sait la différence en termes de contenu symbolique entre un chien et puis un chat. Hein. Le chat, c'est un animal nocturne, indépendant, autonome, pas très proche de ses sentiments, mais qui est en gros capable de se débrouiller tout seul. Hein. Un chat qu'on abandonne, le plus souvent, ça va pouvoir se débrouiller tout seul. Hein. Donc il y a une valence positive et une valence plus négative. Le chien, par contre, lui, il est dans une proximité avec son maître, de temps en temps une fidélité, il est très dépendant pour se nourrir, hein. Vous abandonnez un chien, il va mourir, mais il est très dans l'affect, dans l'émotion. Hein. Un chien peut mourir de chagrin, un chat, ça ne meurt pas de chagrin. Évidemment, c'est un peu binaire, il y a parmi nos auditeurs, j'imagine, des gens qui peuvent penser tout à fait le contraire ou qui ont une expérience différente. J'entends ici dans le contenu symbolique habituel. Donc ici, on est avec ces deux figures
de chevaux. Donc c'est vrai qu'il faudra y revenir, il faudra creuser un petit peu et peut-être faire quelques recherches. On peut parler de la noblesse du cheval, en tout cas de son importance il y a quelques siècles, hein, du cheval. Évidemment, c'était un objet de richesse et puis peut-être vital pour les personnes à cette époque. Enfin,
voilà,
nous y reviendrons, nous essayons d'y revenir. Ouais.
Hein. Dans les champs, comme pour les déplacements, comme pour tirer la charrue ou tirer un carrosse, ça a une grande puissance, hein, le cheval. Hein.
Alors, la jument, en effet, donc, parle, et elle répond « Oui, je parle, et c'est pour ton bien. Écoute mes paroles, ou dans 3 jours tu seras comme moi, j'ai été prise comme toi et changée en jument. » « Comment faire pour me sauver ?» demande le jeune homme. « Donne-moi de l'avoine afin que je prenne de la force, et dans 3 jours, je t'emporterai sur mon dos. »
Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, il n'y a pas une sorte de négociation entre la jument et le rêveur, hein, ou en tout cas le jeune prince ici. C'est juste qu'il y a une information qui passe, une information qui circule. C'est-à-dire, la partie refoulée, qui existe dans l'inconscient du prince, se met à dialoguer avec lui. Et elle ne lui dit pas « laisse-moi manger ». Elle l'invite à être dans une polarité active, puisqu'elle lui dit Donne-moi à manger, donne-moi de l'avoine afin que je reprenne de la force. Et dans 3 jours, je t'emporterai sur mon dos. » Elle va rajouter d'ailleurs juste après, quand ça va mieux, mets une selle sur mon dos et puis emporte ces 3 objets.
La brosse, l'étrie et le bouchon.
Alors c'est vous qui me disiez juste avant qu'on prépare, peut-être vous pourriez redire un petit peu ces 3 objets-là, ce que ça pouvait évoquer.
Eh bien, je ne sais pas ce qu'ils évoquent, mais en tout cas la brosse, l'étrier et le bouchon sont des accessoires de soins pour le cheval, hein, pour le brosser, hein, plus ou moins dur. Hein. Alors en effet, c'est peut-être même dans cet ordre-là, on commence par le brosser, ensuite on l'étrie, et ensuite le bouchon c'est pour le luisant, me semble-t-il, du poil.
Donc pour moi, ça m'évoque l'idée que vous voyez, il y a un travail psychique qui se fait entre le moi du rêveur, ici le jeune prince, et puis cette figure a priori féminine inconsciente, et il y a lieu que le rêveur prenne soin de cette figure-là. S'il prend soin de cette figure-là, c'est-à-dire s'il la soigne, s'il lui donne à manger de la bonne avoine et s'il lui donne de la à boire, alors les choses vont aller mieux.
Alors on parle depuis le début de notre émission évidemment de l'inconscient d'un rêveur, mais peut-être ça pourrait être encore plus clair si on prenait ça d'un peu plus haut, en disant peut-être qu'il a fait une rencontre à un moment de sa vie, que notre héros a fait une rencontre dans la vie réelle, d'une personne féminine, qui voit en lui une vraie blessure, et qui va peut-être tenter de le tirer vers le haut, en tout cas de lui remonter le moral, peut-être même de le guérir. Que ce soit à l'intérieur de lui ou extérieur, ça ne change pas grand-chose, mais peut-être pour nos auditeurs, cette image est plus claire.
Ici, en tout cas, dans votre proposition initiale d'écouter ça comme un rêve, on a bien le sentiment que pour l'instant, ça se joue toujours dans un espace qui est situé dans la forêt. Donc, c'est un travail qui est inconscient. Mais ce qui me semble intéressant dans ce que vous dites, et même très très important, c'est de se dire qu'est-ce qui est à l'œuvre dans ce travail, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire qu'au fond ce travail inconscient va pouvoir s'amorcer. Alors de temps en temps ça se fait un petit peu tout seul au fil de l'existence, mais là je crois que vous avez vraiment raison, très très souvent ça se fait à partir d'une rencontre, hein, c'est-à-dire à partir d'un lien. D'ailleurs souvent je rappelle, et je crois que c'est vraiment important, de se dire que un travail d'analyse ou d'une psychothérapie, c'est jamais un travail de réflexion, c'est pas un travail de la pensée. Ce qui a été blessé chez quelqu'un qui vient consulter, c'est un lien. Ce qui va permettre de réparer, c'est un autre lien. Donc ce qui répare, c'est pas « j'ai tout compris », c'est « j'ai vécu une expérience ». Hein. Pour moi, c'est très très important de dire ça. Donc je trouve que le lien que vous évoquez aujourd'hui, dans le sens d'une rencontre, par exemple pour un homme, d'une rencontre d'une femme qui vient l'aider à prendre soin de lui, et où le lien soigne, alors de temps en temps c'est la compagne qui soigne au sens propre du terme, qui prend soin ou qui donne des soins, certes, mais parfois, peut-être même plus souvent, c'est le lien, hein, puisque si la femme a choisi cet homme blessé, par exemple, et a opté pour l'aider et l'accompagner, elle doit y trouver, elle, son compte aussi. Hein. Donc, dans cette fonction de soignante, il y a quelque chose qu'elle remplit de sa propre identité, de son propre destin, et de sa propre... oui, peut-être de sa propre destinée, je devrais dire plutôt, en repensant à ce que je disais lors de la dernière émission, transformer son destin en destinée.
En tout cas, nous avions affaire à un héros qui était dos au mur, entre les mains du diable, avec un marché pas très réjouissant, hein, et un avenir fort compromis. Et puis là, il va prendre un nouveau départ, parce qu'il va donc donner à manger à la jument. Ils embarquent avec eux la brosse, l'étrie et le bouchon. Et ils s'en vont. Et une fois qu'il fut en selle, la jument lui dit « éprone, éprone dur ». Je vais citer le conte, ça va être plus simple. Elle marchait comme le vent et il lui répétait « éprone, éprone dur, ne vois-tu rien venir ?»« Non, rien, » répondit-il. « Éprone, éprone dur, ne vois-tu rien derrière nous ?»« Si, j'aperçois un gros nuage avec du feu au milieu qui s'avance sur nous. Est-il loin ? Non, il nous atteint. »
Moi, je trouve ça super parce que pour moi, c'est cette polarité féminine inconsciente qui dit au rêveur, garde la puissance de ton désir. C'est-à-dire, continue à désirer.
Hein. À avancer, à croire en quelque chose. Ouais.
Alors, je vais vous donner un petit exemple. J'ai vu cette semaine une personne qui, en gros, a des grosses histoires dans le couple, dans son couple, hein, c'est son deuxième couple, et avec beaucoup d'interrogations. Et elle vient depuis relativement peu de temps, et elle s'attendait peut-être en voyant un psychanalyste que, en l'espace de 2-3 mois, tout allait être arrangé. Et donc, elle se disait, ben voilà, je viens depuis 2-3 mois, j'ai l'impression d'explorer plein de trucs et puis de rien comprendre. Puis surtout, ça avance pas. Et au fond, j'ai repris deux rêves. Et dans ces deux rêves, il y avait quelque chose qui lui disait, d'une part, où elle en était dans sa vie de couple, de manière très claire. Mais deuxièmement, et surtout, que le processus était en cours, c'est-à-dire qu'elle s'était mise en marche. Hein. Donc, voilà, il me semble que là, si on pense ça comme un rêve, l'inconscient dit au rêveur, garde ton désir. Voilà, éperonne-moi, c'est-à-dire fais lien avec moi. Hein. On serait presque dans une figure presque de scène sexuée, en tout cas, lui avec ses éperons et elle qui est stimulée par son désir à lui. On est dans quelque chose où il ne faut pas qu'il lâche. Elle lui dit comment se protéger et lui, il porte la puissance de son désir.
En tout cas, rien n'est joué, car comme dans beaucoup de départs, eh bien, oui, rien n'est joué d'avance. Et puis, se mettre en marche, ça ne suffit pas, rien n'est gagné. La preuve, le diable les rattrape une première fois.
Et puis, les ombres les plus terrifiantes qui sont à l'intérieur de nous-mêmes...
sont toujours là, sont toujours présentes.
Voilà. Et puis, on ne s'en débarrasse pas si facilement. Hein.
On ne s'en débarrasse pas si facilement. Mmh. Il faut le pouvoir d'une brosse magique... Hein, oui. Pour que, aussitôt, je cite, s'élève une forêt si épaisse que le diable ne put la traverser et fut obligé de faire le tour. Pendant ce temps, la jument marchait comme le vent et répétait « Éperonne, éperonne dur, ne vois-tu rien venir ?» Alors, la même scène hein, va se répéter trois fois. On va avoir l'étrille qui va se transformer en montagne et enfin le bouchon qui va se transformer en montagne encore plus haute. Des épreuves de la vie, toujours ces pulsions obscures qui nous rattrapent, qui veulent nous ralentir, qui veulent nous arrêter, qui veulent nous faire retourner en arrière, alors que la vie nous demande d'avancer.
Oui, la vie nous demande d'avancer dans une justesse par rapport à soi-même. Hein. C'est-à-dire là, il y a un couple qui est entre cette jument blanche inconsciente qui est porteuse et qui porte, enfin qui est porteuse de quelque chose, on ne sait pas trop quoi pour l'instant, et qui va le porter. Mais il y a un long temps où il s'agit d'abord de fuir au fond cette dimension probablement sombre, peut-être pulsionnelle, à l'intérieur de soi. Hein.
Alors la jument lui répète souvent « ne vois-tu rien venir ?» Quel message est à ça ? Est-ce qu'il faut être sur le qui-vive ? Il faut avoir un certain éveil ? Il faut pas s'endormir sur ses lauriers ? Sinon, on risque de se faire rattraper par le diable, en l'occurrence.
Je ne sais pas s'il y a trop de lauriers ici. Ce qui me semble, c'est que surtout les ombres qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes, elles sont là jusqu'à qu'on ait négocié avec elles. Et qu'on n'ait pu faire de ce qu'elle représente quelque chose, à savoir quelque chose de mortifère, quelque chose de beaucoup plus vivant. Hein, voilà. Et ça, le plus souvent, ça nécessite d'une part de l'avoir expérimenté dans le cadre du lien, et deuxièmement d'en avoir fait un espace symbolique.
Nous poursuivons eh bien, la première partie de ce conte qui va bientôt aboutir à son terme. Eh bien, je vais encore citer le conte. « Veille bien, dit la jument à son cavalier, nous allons arriver à un pont. Et quand nous aurons passé le milieu, le diable n'aura plus de pouvoir sur nous. Mmh. » Ils s'engagèrent sur le pont et le diable saisit la jument par la queue au moment où ses quatre pieds avaient passé le milieu du pont. Mais le prince coupa avec son couteau les crins qui restèrent dans la main du diable. Il criait au jeune homme « Rends-moi mon cheval, rends-moi mon cheval !»« Non, jamais » répondit-il. Le diable resta longtemps sur le pont à crier, mais il finit par se lasser et s'en alla. Voilà, docteur Dominique Desmichel, une première partie de conte qui se termine plutôt bien, avec plein de symboles encore. Hein. Une rivière, un pont...
Le pont, c'est le symbole, vous voyez, hein, c'est ce que je disais juste avant, du côté du symbolique. Hein, le pont symbolum, c'est ce qui fait un pont entre deux choses. Hein, c'est ce qui permet. Le symbole, c'est ce qui fait un petit écart. C'est-à-dire, on n'est plus juste dans la matérialité, on est dans quelque chose d'un petit peu plus vaste. Et on voit bien ici que si cette jument représente une partie. Du rêveur, hein, c'est-à-dire une partie du jeune prince, une partie inconsciente encore, il va falloir qu'il sacrifie quelque chose. Hein. Donc il va couper un petit peu de la queue de la jument, il va perdre quelque chose, mais il va y gagner de la liberté. Et on voit bien que le diable, lui, il réclame ce qui lui appartient. Hein. Voilà, on en a pas fini ici. Hein. Et on voit bien que dans ce rêve, il y a quelque chose qui est récupéré, c'est-à-dire on est revenu dans le monde du conscient. C'est-à-dire, dans cette première partie, si j'écoutais ça, voilà, si le rêve s'arrêtait là, parce que comme vous le dites, il pourrait très bien s'arrêter là, moi je dirais, la figure symbolique, archaïque, archétypique, on pourrait dire presque, d'un féminin, jusque-là assujetti à une figure sombre, la figure du diable, a été récupérée par le rêveur, qui maintenant peut la chevaucher, c'est-à-dire ils peuvent faire couple tous les deux. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui s'est accompli et on va changer de registre et on va se retrouver dans un autre monde dans lequel il va y avoir une autre aventure qui, a priori, est dans une continuité, qui va quand même raconter autre chose. On n'est plus dans le domaine de la forêt, on est dans le domaine de... On va retrouver le roi du début ou un autre roi, mais quelque chose ici a été accompli.
Eh bien, quel teaser parfait vous venez de faire, docteur Dominique Desmichel. Et je donne à nos auditeurs rendez-vous dans 15 jours pour poursuivre cette exploration de ce conte. Merci beaucoup.
Au revoir.